Bonjour, bienvenue à ce tout nouvel épisode des Apatrides Anonymes, édition du 26 juin 2025, présenté en direct de choc.ca, comme à tous les deux jeudis à 18h30. Simon au micro, en compagnie seulement de Mathieu ce soir. Salut Mathieu.
Bonsoir Simon.
Comment vas-tu?
Ça va bien toi?
Oui, très bien, merci. Normalement, je dirais salut à Marie-Ève, mais elle est en vacances et elle devrait être de retour avec nous dans 2 semaines.
Donc... On espère.
Ben, c'est ce qui est prévu. Donc, édition en duo seulement pour ce soir, peut-être un peu plus allégée que la normale, mais pas du tout édulcorée. D'abord, c'est quoi les apatrides anonymes? Principalement, les enjeux migratoires comme thème principal, leurs causes, leurs conséquences. On essaie de rester objectif, mais on s'empêche pas d'être un peu éditorial. Parfois avec quelques détours historiques, mais on reste principalement dans l'actualité internationale et locale. Pour aujourd'hui, toi Mathieu, tu nous as préparé 2 segments. D'abord, actualité autochtone et Israël-Palestine.
Ben oui, des classiques dans mon cas. surtout Israël-Palestine.
Des classiques, mais qui sont constamment renouvelés. Donc, on peut pas dire que tu te répètes non plus.
Non. Puis c'est pas des classiques agréables non plus nécessairement à parler. Là.
Non, puis Israël-Palestine, disons que ça a été un peu éclipsé par l'Iran. Disons, on l'a un peu mis de côté dans les grands médias. Donc, c'est bien peut-être de nous rappeler que le génocide est toujours en cours.
Oui, puis je vais faire des liens entre les deux, évidemment, aussi. Donc.
Parfait. Donc, on te retrouve un peu plus tard. Au travers de tout ça, j'ai aussi préparé 2 blocs avec comme sujet actualité provinciale en immigration et des chiffres internationaux sur les déplacés dans le monde. Et on aura aussi évidemment l'agenda antiraciste comme d'habitude et quelques nouveautés musicales. Lors de la dernière émission, j'assurais la portion d'actualité locale en immigration, mais il y avait tellement de choses à raconter que je me suis concentré sur le fédéral seulement. Aujourd'hui, ce sera un bloc d'actualité principalement provinciale du Québec, avec juste une mini-brève fédérale pour commencer. Pour certaines catégories d'individus au parcours migratoire atypique, les empreintes digitales sont exigées pour obtenir un permis de travail. Normalement, les empreintes sont recueillies dans les bureaux de Service Canada où les fonctionnaires sur place refusent d'effectuer cette opération prétextant que les documents d'identité ne sont pas valides. Mais c'est parfois normal de ne pas avoir de documents permanents mais seulement des papiers temporaires ou probatoires ou des copies certifiées de documents tout dépendamment de son statut et de la demande. Ça peut sembler anecdotique, ce genre de fissure bureaucratique, mais c'est un déni de droit qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les gens qui doivent évidemment travailler pour subvenir à leurs besoins. Et pendant ce temps-là, bien que les démarches soient refusées pour la raison textuelle suivante, soit faute d'avoir soumis ces données biométriques, mais le gouvernement encaisse quand même les frais des demandes sans les rembourser. Pour encore plus d'exemples de cafouillage administratif dans le cadre de ces demandes qui requièrent des empreintes digitales, vous pouvez lire un article dans Pivot.Québec dont le titre est « Des personnes privées de permis de travail à cause d'une impasse bureaucratique ». On y apprend entre autres que d'un bureau de Service Canada à l'autre, les versions sur quels documents sont exigés pour une prise d'empreinte, ça varie énormément. Et on a même parfois des versions contradictoires, entre employés d'un même bureau.
C'est drôle, je vais parler de l'accession ou de l'accessibilité au statut d'Indien tantôt, puis il y a les mêmes genres d'enjeux bureaucratiques, c'est assez, ouais.
Donc, peut-être briefer ses employés, ça pourrait être bien.
Hein? Des petites mises à jour, oui.
Ouais. Nos actualités provinciales maintenant, l'un des éléments marquants des dernières semaines, c'est le gouvernement de François Legault qui a décidé de fermer l'une des seules voies restantes qui mène à la résidence permanente en gelant le volet travailleurs étrangers temporaires du PEC, du programme de l'expérience québécoise, donc pour le remplacer par un nouveau programme, le PSTQ, ou Programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui est un programme qui avait déjà existé, qui avait été mis sur pause et qu'on réactive en gelant un des volets du PEC. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui.
Donc, seules les demandes déposées avant le 5 juin dans le cadre du PEC là, seront traitées. L'autre volet du PEC, le volet diplômé du Québec, il était déjà suspendu jusqu'au 30 juin. Le gouvernement en a profité de l'annonce pour annoncer la prolongation de sa suspension jusqu'au 30 novembre 2025. Donc, la CAQ, fidèle à son habitude, chamboule des milliers de projets de vie impliquant des familles complètes, sans avertissement, sans consultation. On annonce ça froidement et c'est effectif immédiatement. Alors, tous ces pauvres gens qui montaient un dossier depuis des années doivent tout recommencer à zéro en vertu des exigences du nouveau programme, le PSTQ, l'ancien programme renouvelé, qui est beaucoup plus restrictif que le volet travailleurs étrangers du PEC. Beaucoup de personnes qui sont ici depuis des années et qui étaient admissibles au PEC pensent qu'elles ne le sont plus avec le PSTQ, mais elles n'en sont pas certaines. Ainsi, on s'assure que les travailleurs étrangers temporaires demeurent temporaires et le plus souvent avec un permis de travail fermé, avec maintenant dans le nouveau programme une modulation des catégories professionnelles admissibles beaucoup plus adaptée aux besoins de main-d'œuvre spécifique à certains secteurs économiques, donc qui sera de plus en plus souvent sujette à modification de dernière minute. Donc, le décalage entre les délais d'obtention de la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés entre les autres provinces et le Québec, il se creuse encore plus. Ça peut aller autour de 6 mois dans le reste du Canada, alors qu'au Québec, avec ces nouvelles annonces, on est de moins en moins en mesure de déterminer si un candidat, même s'il répond aux critères fixés, il pourra, au terme de ses démarches, l'obtenir à la résidence. On est vraiment rendu là. Les conseillers et les avocats en immigration ne savent plus quoi dire à leurs clients. Donc, quel avenir pour le PEC? Difficile à dire parce que pour l'instant, ces deux volets sont donc gelés jusqu'au 30 novembre 2025.
Ça fait comme c'est gelé depuis l'automne dernier, hein? C'est bien ça?
Ben là, on a un volet dont on vient d'annoncer le gel. L'autre, c'était depuis juin de 2024.
Ouais,
donc, ça faisait un an. Puis c'est dans les deux cas, le gel est effectif jusqu'en novembre prochain.
Okay. Pour
potentiellement renouveler aussi.
Oui, tout à fait. Ouais.
L'autre élément fort dans l'actualité en immigration au Québec, c'est l'adoption par ce même gouvernement, avec l'appui en chambre de ses alliés péquistes, d'un modèle d'intégration nationale des immigrants. Un modèle qui, selon le ministre Roberge, vise à décourager l'installation au Québec de personnes jugées communautaristes, un terme péjoratif principalement utilisé dans les cercles français de droite et d'extrême droite. Donc, pour l'instant, beaucoup de vœux pieux, beaucoup d'énoncés de principes dans cette nouvelle loi sur l'intégration à la nation québécoise, dans laquelle on parle de contrat social, de valeurs québécoises, encore une fois, de laïcité, bien sûr. Mais pour voir comment cette loi sera appliquée dans la réalité, il faudra attendre, nous dit-on, 18 mois. Parce que le gouvernement veut préciser les modalités de la loi dans différents contextes, dans les milieux de travail, les écoles, les CPE, les services publics, auprès des organismes et événements subventionnés qui devront tous se conformer à l'esprit de la loi. Certains ironisaient en disant que pour que Haïti en folie puisse être subventionné, il va falloir y servir de la tourtière et y faire jouer du Paul Piché.
Ouais, je me rappelle de ces allusions-là il y a quelques mois quand le projet de loi est sorti, ouais.
Ouais, ben étant donné que vu que c'est creux, ça peut être appliqué d'une manière tellement large et arbitraire.
Donc, puis le projet de loi, il y avait 12 pages, c'est le projet de loi 94, si les gens veulent s'en rappeler, mais c'est très général, là.
C'est ça, donc on devrait être fixé, mais dans un an et demi. Peut-être, on verra.
Peut-être.
Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. C'est l'esprit de la loi. On n'a pas son cadre réglementaire complet. Donc, un genre de coquille vide que le gouvernement pourra remplir selon son bon vouloir, mais la plupart des organismes de défense de droits sont très préoccupés par cette loi qu'ils décrivent comme étant une attaque délibérée au fondement du système québécois de protection des droits humains avec des accents assimilationnistes.
Mm-hmm.
Monsieur Roberge rejette ce terme.
Oui, c'est un bon garçon.
Oui, oui. Je termine avec une suggestion de lecture, une lettre ouverte très sentie de la Ligue des droits et libertés publiée fin mai et dont le titre est « Pour la fin des interpellations, un point, c'est tout », avec comme sous-titre « Montréal demeure en retard par rapport au reste du Canada ». Alors que le débat social s'est tourné vers l'interdiction des interpellations, le SPVM persiste à maintenir la pratique. Donc, politique d'interpellation, donc récemment actualisée, sans qu'elle ne le soit vraiment. Donc, on y a ajouté l'obligation de la part des agents de police d'informer la personne interpellée sans motif qu'elle est libre de quitter. Je vous lis un passage de la lettre ouverte de la Ligue des droits et libertés. Cette mesure n'est pas assez robuste. Les policiers devraient informer explicitement les personnes interpellées qu'elles n'ont pas d'obligation légale de s'identifier et de répondre aux questions, et des sanctions devraient être prévues en cas de non-respect de cette obligation. Les citoyens et citoyennes vivant du profilage racial et social le savent, il y a un monde qui sépare une politique sur papier de la réalité dans la rue. Vous pouvez lire la lettre complète dans le site ligue-des-droits.ca. Un autre texte très très bien senti lui aussi sur le même sujet, celui d'Alexandre Popovic avec un titre assez évocateur, Interpellation, piège à con. C'est aussi dans pivot.québec. Monsieur Popovic a eu la chance, si je peux dire, d'assister à la séance de la Commission de la sécurité publique lors de laquelle on a présenté cette politique actualisée. C'est très édifiant, son résumé est décourageant, mais quand même très amusant à lire en même temps.
Oui, j'imagine. Connaissant son style.
Il est un petit peu baveux. Ça fait du bien. On va maintenant aller écouter une première pièce musicale. On en aura en tout 4 aujourd'hui. 2 choisies par moi-même et 2 par Mathieu, dont celle qu'on va entendre à l'instant. Qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu?
On va écouter un groupe américain qui s'appelle Dead Pioneers. La pièce « My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal ». C'est leur 2e album qui s'appelle « Post-American », sorti en avril dernier, tout récemment. C'est un groupe punk du Colorado, l'idée par Greg Deal de la tribu Paiute de Pyramid Lake, pardon, au Colorado. Donc, des textes très engagés sur les enjeux autochtones, le racisme, le colonialisme, c'est vraiment intéressant. Et un bon punk rock bien entraînant. Donc, une découverte, Simon, de Dead Pioneer.
Ça tombe bien parce que tu nous fais les actualités autochtones au retour.
Exactement. Stupid fucking white man.
Your own culture.
De Pioneers à choc.ca. C'est Mathieu qui reprend le micro à Simon pour... j'avais annoncé la toune, donc on continue des enjeux autochtones, hein, Simon?
Tu peux y aller, Mathieu.
Merci. On va parler de nos préférés. Après avoir suggéré que les Premières Nations passent leur temps à quémander au gouvernement, Doug Ford...
J'allais dire de Rob Ford.
Doug Ford a présenté ses excuses au chef d'une 30aine de Premières Nations de la province durant une rencontre à Queen's Park la semaine passée. Ces propos avaient provoqué un tollé. Le député néo-démocrate Sol Mamakwa, seul membre des Premières Nations à l'Assemblée législative de l'Ontario, avait qualifié ses commentaires de profondément offensants et racistes. La controverse découle des tensions entourant le fameux développement du Cercle de Feu, une région riche en minéraux du nord de l'Ontario. Certaines Premières Nations sont furieuses contre l'adoption du projet de loi 5. La loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie, ça c'est le nom de la loi, a été adoptée il y a 2 semaines. La loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie. Hein?
Ça fait repenser à tout ce qui est au niveau fédéral aussi, là, pour libéraliser le commerce entre les provinces.
Exact. Cette loi donne au gouvernement le pouvoir de suspendre les lois municipales et provinciales pour des projets choisis par la création de zones économiques spéciales. Pour rappel, le Cercle de Feu est une région d'environ 5000 km². Situé à 500 km de Thunder Bay, qui contient d'imposantes réserves de minéraux critiques. Ces régions sont aussi les territoires ancestraux de plusieurs premières nations. D'ailleurs, Nadir André, Simon, dans sa chronique du 9 juin, intitulée « Colonisation 2.0 ».
On le reçoit bientôt en entrevue.
Dans deux semaines.
Oui.
Donc, fait lien avec l'adoption sous bâillon du projet de loi C5 du gouvernement Carney, qui vise à augmenter la production d'énergie au pays et simplifier les évaluations environnementales ainsi que les délais d'approbation des projets. Il fait lien avec la soi-disant progressiste Colombie-Britannique qui vient de faire adopter des projets de loi 14 et 15 afin de permettre la réalisation plus rapide de projets de développement de ressources naturelles énergétiques ainsi que de projets d'infrastructure.
Tiens, tiens.
Et la Nouvelle-Écosse, quant à elle, a fait adopter le projet de loi 6 visant les mêmes objectifs. Et il fait lien avec le Québec et son projet de loi 97 visant à augmenter les coupes forestières, qui est présentement à l'étude. Et le projet de loi 69 sur l'énergie a annoncé une augmentation sans précédent de projets énergétiques dans les prochaines années qui a été adopté sous bâillon il y a trois semaines.
Il pourrait juste comme arracher la croûte terrestre puis aller directement chercher tous les minéraux.
Là. Oui, oui, avec un grand aspirateur. Là.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait. Sinon, pas très loin de l'Ontario, autour de l'Ontario aussi. Donc, alors que l'armée américaine a accéléré l'octroi des permis pour l'encapsulage d'un pipeline d'Enbridge dans la région des Grands Lacs, plusieurs communautés autochtones de la région s'y opposent fortement et ont décidé de se retirer des discussions. Cette ligne vieille de 70 ans relie les villes de Superior au Wisconsin à Sarnia en Ontario et 3,7 millions de litres de carburant y passent chaque jour. Ces permis d'urgence sont délivrés par le Corps du génie de l'armée aux États-Unis et l'Agence de protection de l'environnement américaine. Les communautés autochtones continuent d'évoquer les conséquences désastreuses d'une possible marée noire dans la région et ont vivement réagi à l'annonce du gouvernement américain. La compagnie canadienne Enbridge soutient qu'encapsuler ce pipeline dans un tunnel serait la meilleure solution pour éviter tout déversement dans la région des Grands Lacs. Tunnel ou pas, les communautés autochtones opposées à Enbridge souhaitent tout simplement la fermeture de ce vieux pipeline. On rappelle que les antécédents d'Enbridge parlent d'eux-mêmes, déversement catastrophique, destruction de l'environnement et mépris total de la souveraineté tribale pour les États-Unis et des droits des générations futures. Dans la région des Grands Lacs, la catastrophe de Kalamazoo en 2010 est encore très présente dans les esprits. À l'époque, le bris d'une ligne d'Enbridge avait conduit au déversement de 4,5 millions de litres de bitume dans la rivière du même nom.
Oui, Enbridge est vraiment très performante en termes de déversement.
Oui, oui.
Mais dis-moi donc, juste encapsulé, c'est quoi exactement?
C'est que le pipeline, il est sous-marin, puis là, on mettrait une espèce de... Il serait dans un tunnel, qu'il fuit.
On le scellerait.
Mais en même temps, ça fait... ce que je disais, c'est que ça peut faire accumuler du gaz, qui peut faire exploser aussi l'espèce de capsule aussi.
Oui, question de rester performant au niveau des fuites. Là,
exactement, mais ça peut avoir des effets de gaz qui s'accumulent.
Ouais, ouais.
Puis on s'entend que c'est entre deux pays, fait que c'est un peu complexe, là, puis c'est en dessous de plusieurs cours d'eau. Donc, on n'a pas beaucoup entendu parler ici, mais c'est assez intéressant. Sinon, je change de sujet, je retourne à Ottawa. J'étais à Toronto tantôt, je vais à Ottawa. La vérificatrice générale du Canada affirme que Service aux Autochtones Canada n'a pas traité les demandes d'inscription en vertu de la loi sur les Indiens dans le délai requis de 6 mois. Cette situation prive ainsi de nombreux membres des Premières Nations d'accès au logement dans les réserves, d'aide financière pour les études postsecondaires et de prestations de santé. Karen Hogan a constaté que plus de 8 demandes sur 10 traitées par le ministère dépassaient la norme de 6 mois. Parmi celles-ci, il y avait des démarches prioritaires pour des personnes âgées ou ayant des problèmes de santé. Madame Hogan a conclu qu'il fallait en moyenne près de 16 mois au ministère pour prendre une décision sur une demande individuelle et près de 3 ans pour traiter les demandes d'appel. Elle a également constaté un arriéré de près de 12 000 demandes, dont 1 500 dataient de plus de 2 ans. Donc, ça ressemble un petit peu au ministère de l'Immigration, là, on peut dire ça. Au fil des ans, Ottawa, les Premières Nations ont travaillé à l'élimination de certaines discriminations fondées sur le sexe contenues dans la loi, notamment une règle qui empêche certaines femmes des Premières Nations de transmettre leur statut à leurs enfants après avoir épousé un homme non inscrit. On avait entendu parler souvent. Donc, il est essentiel, selon la VG, la vérificatrice générale, que les personnes qui souhaitent suivre efficacement le processus d'inscription en comprennent clairement le fonctionnement et qu'elles soient informées des modifications apportées à la loi qui pourraient les rendre admissibles à l'inscription. De plus, Mme Hogan a constaté que Service aux Autochtones Canada n'avait pas pu démontrer que la plupart des personnes chargées de prendre les décisions finales par rapport aux demandes avaient la formation et l'accréditation nécessaires et a déclaré que le ministère n'assurait pas la surveillance de ses bureaux régionaux. Donc, la plupart des personnes n'ont pas la formation et l'accréditation nécessaires. C'est quand même intéressant, hein? Bien que le processus d'inscription soit transféré ultérieurement dans le processus aux communautés des Premières Nations, Mme Hogan a conclu que le budget de traitement pour ce transfert est sous-financé depuis 3 décennies. Service aux Autochtones a déclaré que le modèle de financement équivaut à soutenir un administrateur une journée par semaine à 12,80 $, soit un montant inférieur au salaire minimum dans toutes les provinces et tous les territoires, quand même. Hein? La nouvelle ministre responsable, Mandy Gould-Masty, a par ailleurs déposé fin mai au Sénat le projet de loi S2 qui vise à corriger des inégalités de longue date dans la reconnaissance de l'identité autochtone et des droits associés au niveau de la loi. Donc, ça, on verra ce qui se passera de ce côté-là. Et je termine, Simon, avec... on va au Manitoba.
Parfait.
Des centaines d'enfants pris en charge par les services gouvernementaux du Manitoba ont été grièvement blessés sur une période de 18 mois. Un rapport récemment publié par la protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba évoque des dizaines de victimes d'agressions sexuelles, entre autres. Sherry Gott affirme qu'il pourrait s'agir seulement de la pointe de l'iceberg en raison de sous-déclarations dans le système. Il s'agit de la première fois que la protectrice rend public des informations sur le nombre et la nature des blessures subies par les enfants pris en charge par le service à l'enfance et à la famille du Manitoba. La création d'un programme d'examen et d'enquête sur les blessures graves était l'une des recommandations formulées lors de l'enquête sur le décès de Phoenix Sinclair, une fillette de 5 ans qui avait passé du temps en famille d'accueil chez des proches et qui avait été maltraitée et finalement tuée.
Ça date d'il y a quelques années, j'imagine?
Il y a 5-6 ans, okay. Exactement, c'est ça. Une blessure grave est définie comme tout ce qui met la vie en danger, nécessite une hospitalisation et est susceptible d'entraîner une déficience grave à long terme ou résulte d'une agression sexuelle. Au total, 94% des blessures étaient liées à un jeune pris en charge par les services à l'enfance et la plupart, soit 91%, concernaient un jeune d'origine autochtone.
Ouais, tu dis que c'est la pointe de l'iceberg, mais forcément, parce que la plupart des agressions ne laissent pas nécessairement de séquelles visibles ou de blessures. Donc,
ça se passe dans une famille d'accueil, personne n'en parle.
C'est ça. Ouais. Donc, c'est très inquiétant. Ben, écoutez, là-dessus, sur ces statistiques tristes, on va y aller en musique. Le duo de New York, Jennifer, dont le tout premier album complet, Jennifer ?, figure depuis quelques semaines au palmarès international de choc. On va entendre la pièce Old Grimes, qui est un peu le pivot de cet album concept qui se veut un manifeste trans et dont la thématique centrale raconte la relation un peu toxique avec un spectre ou une divinité méchante et hipster qui s'appelle Jennifer.
Okay.
Ça peut sonner un peu pompeux comme ça, mais dans le fond, ça se prend pas vraiment sérieux, c'est même plutôt humoristique. Voici donc Jennifer avec la pièce Old Grimes.
Disaster carved into the plaster. Too much Ari Aster.
Wait, hold on. We'll be right back.
Grimes de Une Jennifer. Et on retrouve Mathieu, encore une fois, pour une autre région du monde complètement.
Là. Oui, d'autres réalités, mais quand même, il y a des liens au niveau de la colonisation, puis au niveau du racisme, puis au niveau de d'autres enjeux.
Mais ça, oui, c'est universel.
C'est malheureusement universel. Donc, je continue mon marathon de deux blocs en ligne. Donc, je voulais parler en premier d'un article de l'agence Média Palestine que je consulte souvent, qui date de cette semaine. Gaza, jour 626, le génocide se poursuit dans le silence médiatique. Je vous en lis des extraits. 10 jours après les attaques d'Israël en Iran, Gaza compte toujours ses morts. Les tueries continuent jour après jour pendant que les médias mainstream ont les yeux rivés sur le nouveau champ de bataille ouvert par Israël sur le territoire de la République islamique. Des sources médicales ont annoncé un nouveau bilan. Simon, 55 998 morts depuis le 7 octobre 2023 et plus de 131 000 blessés. Un exemple tout récent, le 22 juin, 6 personnes ont été assassinées alors qu'elles essayaient de se procurer de la nourriture dans un des centres d'aide gérés par la Fondation humanitaire de Gaza, l'organisation privée soutenue par Israël et les États-Unis. Ces assassinats portent le bilan de la bataille du pain à 467 morts et plus de 3600 blessés. Ces morts correspondent à toutes les personnes tuées alors qu'elles tentaient d'accéder à un des centres de distribution de la Fondation, un mois à peine après le lancement de cette nouvelle méthode de distribution par Israël. D'après l'UNICEF, 110 enfants sont admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux pour des cas de malnutrition depuis le début de l'année 2025. 500 patients et blessés sont morts à cause des retards de transferts médicaux induits par le blocus israélien dans les restants, ce qui reste des hôpitaux.
Forcément, les soins, ça nécessite des suivis toujours.
Et des ambulances, entre autres, et c'est des transferts. Et ça se fait pas parce que c'est bombardé. On connaît la situation. Sinon, au niveau de la résistance, il y a eu la flottille de la liberté avec Greta Thunberg qui est obligée de prendre l'avion pour retourner chez elle. Elle s'est faite mettre dans un avion, puis Israël a complètement bloqué ça, évidemment. Il y a eu aussi deux initiatives intéressantes visant à rallier Gaza pour lever le blocus qui ont été stoppées en Libye et en Égypte il y a 2 semaines avec des arrestations dans les deux pays. Le premier convoi parti d'Alger rassemblant environ 1 millier de Tunisiens, Algériens, Marocains et Mauritaniens.
C'était assez impressionnant. On voyait des images.
Oui, tout à fait. Ça a été bloqué à Sirte, dans le très hospitalière Libye de l'Est. Et là, pauvres autres, ceux qui ont été arrêtés. Oui, tout en réaffirmant l'importance des pressions sur Israël pour lever le blocus de Gaza, l'Égypte avait fait savoir que toute forme d'action pro-palestinienne de délégation étrangère, entre guillemets, sur son territoire exigeait une autorisation préalable. Et donc, organiser parallèlement en Égypte la marche mondiale vers Gaza, qui a réuni des participants de 80 pays, a été bloquée par les autorités égyptiennes en route vers la ville d'Ismaïlia, à 45 kilomètres à l'est du Caire. Des centaines de militants ont été interceptés, parfois molestés, passeports confisqués avant d'être embarqués de force dans des bus lors d'interventions musclées des forces de l'ordre sur différents points de contrôle. La marche mondiale comptait traverser en bus le Sinaï, puis marcher 50 kilomètres jusqu'à Rafah du côté égyptien et de la frontière avec Gaza. Ça, on a plus entendu parler un peu que celle en Libye, en Égypte, vu qu'il y avait des Canadiens, entre autres. Là, on a entendu.
Ouais, on est déjà pas mal plus proche de la bande de Gaza aussi.
Exactement.
Mais dans des territoires quand même très arides et hostiles.
Oui, oui. Ceux qui étaient en Libye comptaient aller jusqu'à Gaza en passant par le Sinaï. Là.
Méchant contrat quand même.
Oui, c'est tout un contrat. Donc, des Canadiens qui s'étaient rendus en Égypte afin de manifester pour le cessez-le-feu à Gaza disent avoir été détenus, voire expulsés par les autorités. Certains d'entre eux affirment par ailleurs ne pas avoir été soutenus par Ottawa. Parmi ces Canadiens figurait le médecin montréalais Ghassan Boubez, un orthopédiste du CHUM, membre du groupe Médecins du Québec contre le génocide à Gaza. Il dit avoir été témoin de l'arrestation de l'organisateur de la délégation canadienne, Manuel Tapial, par les autorités égyptiennes lors d'une réunion que la délégation canadienne tenait dans un hôtel du Caire. Tapial, membre de l'organisation Palestine Vivra, a été détenu pendant quelques 36 heures par les autorités égyptiennes avant d'être libéré. Entre 50 et 80 Canadiens ont participé à cette marche internationale pour Gaza, en compagnie de 4000 autres militants venus de plusieurs dizaines de pays. Ils comptaient marcher jusqu'à Rafah, je vous l'ai dit. Le médecin, donc, du CHUM affirme que le groupe a soumis de nombreuses demandes d'autorisation aux autorités égyptiennes pour pouvoir manifester. Personne n'a dit qu'il était interdit de faire la marche. Les autorités n'ont juste jamais répondu. Puis après ça, ils ont rentré dans le tas. Une autre participante canadienne dénonce la réponse d'Ottawa aux démêlés de ses ressortissants en Égypte. Baya El Hashimi a déclaré que plusieurs membres de la délégation ont appelé l'ambassade et le message a été très clair qu'elle ne ferait rien pour les personnes arrêtées. Manuel Tapial, finalement, a été relâché après son kidnapping, puis mis dans un avion pour retourner au Canada. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a un article sur le site de Radio-Canada qui date du 21 juin qui s'appelle « Des activistes qui ont tenté de se rendre à Gaza racontent leur périple ». Et on parle beaucoup des abus, des violences policières. C'est quand même assez frappant. Là. C'est C'est pas juste embarque dans le boss, là. C'est un peu plus violent que ça, là. Ouais.
Le titre de l'article, excuse-moi.
Le titre de l'article, attends un peu, Simon.
Le titre de l'article.
L'article du titre, c'est des activistes qui ont tenté de se rendre à Gaza racontent leur périple, ouais, périple, entre guillemets, leur mésaventure, plutôt, je dirais.
Mais périple, je veux dire, les médias français appelaient, désignaient la flottille comme une croisière, hein.
Oui, oui. Ben, ça, c'est.
Avec du mépris, comme j'en ai genre, rarement
ça, c'est,
vu.
Ça, c'est pour la flottille, pas pour la marche, c'est
pour
deux choses.
Pour la flottille, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est un peu le même, ouais, tout à fait. Puis il y a plein de Français qui étaient en Égypte, entre autres, là. Sinon, ben, on revient ici. Régime d'assurance maladie, les familles de Gaza privées de soins au Québec. C'est une lettre ouverte du 29 mai dernier. Je vais vous lire quelques extraits. En tant qu'organisme représentant des professionnels et professionnels de la santé, appuyé par des alliés de la société civile, nous dénonçons l'absence de couverture médicale pour les familles de Gaza installées au Québec. Jusqu'à maintenant, le Québec a accueilli moins d'une centaine de Gazaouis titulaires d'un visa de résidence temporaire. Malgré cela, le Québec demeure la seule province refusant d'assurer leurs soins de santé, contrairement aux recommandations claires du gouvernement fédéral. Alors que la province s'est engagée à rendre accessible la RAMQ aux réfugiés ukrainiens depuis 2022, mesure qui a été récemment prolongée jusqu'en 2028 pour 30 000 personnes installées au Québec, la même protection a refusé jusqu'à maintenant aux 100 familles palestiniennes, incluant des enfants, qui fut une situation qualifiée de génocide par plusieurs experts. Seuls les Gazaouis ayant de la famille de citoyenneté canadienne sont admissibles au VRT de toute façon. Une fois arrivés, ils ont droit au programme fédéral de santé intérimaire pour 3 mois, puis les provinces sont censées prendre la relève. Donc, la dette s'adresse à Dubé puis à Legault. Nous vous avons contacté à maintes reprises pour dénoncer cette injustice. Après des mois de silence, vous avez finalement refusé de donner suite à nos demandes de couverture médicale, invoquant un enjeu d'identification des Gazaouis sous VRT. Mais c'est passé par le gouvernement fédéral avant, de toute façon. Donc, c'est un prétexte, évidemment.
Bon, oui.
Ben oui, évidemment, c'est des subtils caquis. Donc, les organisations signataires, et entre autres Médecins du Québec contre le génocide à Gaza, Alliance des soignants pour la Palestine, Mouvement de la jeunesse palestinienne. Puis, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans les médias, honnêtement, de cette histoire-là. Des familles qui sont déjà ici, qui ont eu un permis spécial temporaire et qui n'ont pas le droit aux soins de santé au Québec. Il y a une pétition sur le site d'Amnesty qui s'appelle RAMQ pour Gaza, si vous voulez la signer à ce sujet. Et s'il me reste 2 minutes, Simon, ça te va-tu?
Oui, oui, tu peux y aller.
OK. La répression dans les milieux académiques anglophones contre les manifestants ou les organisateurs de protestations pro-palestiniennes se poursuivent. La subtile université McGill menace actuellement le CUPERD ou le GRIP, local, donc de couper les fonds et d'empêcher l'accès aux locaux pour les membres, pour les membres, les employés, puis les gens qui gravitent autour du Cooper, s'ils ne coupent pas les liens avec un groupe qui s'appelle SPHR, Student for Palestine Honor and Resistance.
Ah bon?
Donc, McGill demande qu'ils coupent les liens avec ce groupe-là. Puis déjà, pour l'instant, c'est une menace, mais ils ont commencé. Ils menacent de mettre fin à l'entente entre l'université puis le GRIP et de placer toutes les finances du GRIP donc dans une fiducie parce que c'est eux qui contrôlent un peu les cotisations, comme ça se passe souvent.
Ouais, je suis pas sûr qu'ils ont le droit de faire ça.
Ben, évidemment, c'est ça. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est tout en anglais. Malheureusement, j'ai rien trouvé en français sur le web, mais ça s'appelle Stop McGill Repression of Pro-Palestine Student Activism. C'est une campagne de financement de 11 000 $ pour payer les frais, surtout juridiques, pour contester cette décision-là, puis poursuivre l'Université McGill. Et on rappelle que la grande université pro-sioniste, pro-israélienne, a déjà fait les mêmes menaces à
J'allais dire laquelle, mais tu parles toujours de McGill.
Oui, je reste dans le centre-ville de Montréal. Donc, a déjà fait la même chose avec l'Association Générale et l'Association des diplômés aussi qui appuie certains groupes pro-palestiniens. Donc, McGill continue son travail de sape. Pivot a fait plusieurs articles, d'ailleurs, ouais, là-dessus. Donc, voilà. Et donc, le Cooper de McGill demande 11 000 $ Et c'est sur le site zeffy.com, Z-E-F-F-Y.com pour le sociofinancement. Puis c'est chercher Cooper de McGill. Et en terminant, Simon, j'ai pris un petit article de Alter Québec. Je cite deux phrases. Nous publions la lettre collective à l'initiative de la Coalition du Québec Urgence Palestine qu'elle souhaitait publier pour la grande manif pro-Gaza et pro-Palestine qui a eu lieu le 14 juin dernier, où on était.
Oui, il y avait 15 000, grande manif, là.
Avec officiellement 15 000 personnes, selon les organisateurs. Et cette lettre a été annoncée par une liste impressionnante de 159 organisations, 165 personnalités publiques, autres signataires, des centaines. Le Devoir a décliné au motif qu'il allait publier une lettre qui partage plusieurs arguments sensibles. La presse, les médias de la coopérative d'information n'ont pas voulu la publier. Donc là, plusieurs médias, dont Alter Québec, ont décidé de la publier. Mais c'est un peu particulier quand même, parce que c'est une lettre vraiment... C'est rare qu'il y ait autant d'organisations signataires. Et la lettre, ben pour les gens qui la cherchent, ça s'appelle « Éliminue moins une pour le peuple palestinien. Le Canada doit radicalement changer d'approche. » C'est sur le fait de d'imposer des sanctions, évidemment, à Israël.
Ben merci beaucoup, Mathieu. Vraiment beaucoup d'actualité sur McGill aujourd'hui. Puis, c'est un peu de renverser le paradigme. Là. C'est à McGill qu'on demandait de couper les ponts avec... Il y a toutes sortes de partenariats, d'investissements avec des entreprises qui participent directement au génocide.
Oui.
Et là, on dit « Ah, non, c'est nous qui allons couper des ponts avec nos propres organismes.
Ouais, » ouais,
donc, on répond à l'attaque par l'attaque.
Oui, oui, ben c'est vraiment...
de se défendre.
Oui, oui, ben ils ont tellement raison, ils s'isolent, là. C'est ça, tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup. Donc, on retourne en musique. On va entendre l'excellent trio de jazz contemporain montréalais Miss. Qu'est-ce que je prononce bien?
Oui.
M-I-S-C, dont l'album Beat Bouquet. Beau titre.
Big Bouquet.
Se trouve au palmarès local de Choc, la pièce Feu de batterie, qui est en collaboration avec Zouz, que j'ai manqué au Franco la semaine dernière. Je crois que tu étais, toi,
Mathieu. Oui, à l'extérieur, c'était très agréable.
Cool. Donc, voilà pour Zouz. Mais pour revenir à Misk, c'est des vieux routiers qui ont sorti plusieurs albums depuis leur début en 2012. Ils vont lancer leur tout dernier, dont je rappelle le titre, Beat Bouquet au Fouf, la semaine prochaine, le jeudi 3 juillet. Ils seront ensuite en tournée un peu partout au Québec, dont parmi certains festivals comme le Festival d'été de Québec ou le Festif à Baie-Saint-Paul à surveiller près de chez vous. On écoute donc Misk. Toujours aux apatrides anonymes sur choc.ca. Début juin, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR, publiait son dernier rapport sur les déplacements dans le monde. Et on assiste encore, comme à chaque année depuis 10 ans, à des augmentations constantes avec un pic historique à la fin de 2024 de 123,2 millions de personnes déplacées dans le monde. Ce qui veut dire une personne sur 67. Quand même énorme. Comme toujours, la majorité des personnes déplacées le sont dans leur propre pays ou dans les pays limitrophes, les pays d'accueil étant dans une proportion de 3/4 des pays considérés comme pauvres. Ce nombre de 123,2 millions de personnes forcées de fuir leur maison par rapport à il y a 10 ans, en 2015, c'est presque exactement le double. J'y vais de quelques autres statistiques marquantes. Les pays où la proportion de personnes déplacées ou réfugiées par rapport à la population générale est la plus grande, c'est d'abord le Liban, qui accueille des Afghans, des Syriens, des Palestiniens, avec une personne sur 8 qui est une personne déplacée. La Jordanie vit le même phénomène dans une proportion un peu moindre que celle du Liban, qui, il faut le rappeler, en raison des agressions israéliennes, comprend aussi beaucoup de déplacés internes. On a aussi Aruba et Curaçao, deux pays distincts, des petites îles des Caraïbes qui accueillent des milliers de réfugiés vénézuéliens. Puis on a le Tchad, qui se trouve entre autres en position très stratégique entre les deux Soudans, la République centrafricaine, et il borde aussi le nord-est du Nigeria où les groupes djihadistes contrôlent toujours la région. En termes de nombre absolu, sans égard à la taille de la population générale, les pays où se trouvent le plus de réfugiés d'autres pays, c'est les États-Unis avec 729 000, ensuite l'Égypte 434 000, l'Allemagne 230 000, Canada 174 000 et l'Espagne avec 168 000. Au niveau des déplacements internes, le pays qui détient ce triste record, c'est le Soudan. Avec, on a parlé, je crois que c'est toi, Mathieu.
Il y a quelques semaines, oui. Ouais.
Puis je pense que le chiffre est même augmenté par rapport à ce que tu disais. On est rendu à 14 millions de personnes soudanaises qui ne sont plus chez elles, mais toujours dans le pays. Suivent la Syrie avec 13,5 millions, l'Afghanistan 10 millions et l'Ukraine presque 9 millions de déplacés internes dans le territoire. Gaza, une population totale beaucoup moindre que ces quatre pays-là, un peu plus de 2 millions, je crois, de gens vivent à Gaza, si on peut appeler ça vivre. Mais on y trouve une proportion extraordinaire de personnes déplacées, des centaines de milliers, mais c'est très difficile à quantifier parce que c'est un contexte assez volatile. Il y a plusieurs vagues de déplacements massifs, parfois simultanément, et parfois elles sont suivies de vagues tout aussi impressionnantes de retour. Donc on a eu aussi encore des photos impressionnantes de gens qui retournaient soit du nord vers le sud ou du sud vers le nord, là, dépendamment.
Mais la grande majorité des gens ont été déplacés au moins une fois.
Oui, c'est ça, mais parfois sont actuellement dans leur coin d'origine.
Oui.
La proportion de mineurs qui sont déplacés dans le monde, elle est de 20%, ce qui représente environ 25 millions d'enfants déplacés. Les retours, on en aurait eu, les retours en général, on en a eu presque 10 millions en 2024, un autre record en 10 ans. Des retours parfois volontaires, mais le plus souvent forcés. La Syrie domine le classement des retours depuis le changement de régime. On a seulement 189 000 personnes qui ont obtenu de la part d'un gouvernement un statut officiel de réfugié. Donc, je rappelle qu'il y a 123,2 millions de personnes déplacées actuellement dans le monde. Donc, ça semble peu, 189 000, mais là aussi, c'est un record dans les 10 dernières années. Ça veut quand même dire que moins d'une personne déplacée sur 600 obtient un statut officiel de réfugié.
Ben oui.
Bref, je pourrais continuer à vous assommer longtemps avec toutes sortes de statistiques, mais je vais vous inviter à consulter ce rapport très détaillé avec plein de graphiques et de cartes, certaines cartes interactives même qui... C'est pas disponible en français, mais le titre est « Global Trends Forced Displacement in 2024 » et on trouve la version PDF dans le site unhcr.org. Je vais terminer ces courtes actualités internationales avec, comme souvent, un article d'InfoMigrants qui donne la parole à plusieurs chercheurs et analystes des questions migratoires qui dénoncent ce dont on a parlé lors de notre précédent épisode et ce dont je viens de parler aussi, les retours dits volontaires, analysés par des agences de l'ONU, souvent à partir de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye ou encore de l'Égypte vers des pays subsahariens. Ces chercheurs parlent de retours qui ne sont pas du tout volontaires, qu'ils décrivent plutôt comme des expulsions déguisées et qui ne sont pas du tout motivés par une réelle envie de retour, mais pour fuir le racisme, les exactions, les kidnappings, l'esclavage, les abandons dans le désert et même les meurtres. Les programmes de retour dits volontaires sont souvent devenus la seule alternative de survie possible. L'Organisation internationale pour les migrations, ou OIM, qui est souvent l'agence qui organise ces retours, est directement visée par les critiques, Et elle se défend en disant toujours obtenir le consentement éclairé des candidats au retour, alors qu'elle est en grande partie financée par l'Union européenne, dans le cadre de politiques anti-migrants de plus en plus répandues d'externalisation du contrôle des déplacements, pour faire en sorte que le moins de migrants possible atteignent leurs frontières. Petite donnée intéressante pour terminer, je n'ai pas la proportion, mais une partie, semble-t-il, assez importante des personnes retournées dans leur pays d'origine, elles retentent ensuite l'exil, puisque les conditions de vie dans lesquelles elles sont retournées, en général, elles ne se sont pas améliorées. Donc, très intéressant, cet article d'Infomigrant.net, dont le titre est « Il n'y a rien de moins volontaire qu'un retour volontaire ». Des chercheurs dénoncent des politiques d'expulsion déguisées. On y va tout de suite avec l'agenda. Donc, je terminerai avec quelques suggestions dans le cadre de Cinéma sous les étoiles. Mais d'abord, quelques éléments assez variés qui pourraient vous intéresser, comme le tout dernier numéro du magazine Caminando, qui se penche comme toujours sur l'immigration et les droits humains, principalement en Amérique latine, et qui est maintenant disponible. La thématique est la suivante, entre hostilité et hospitalité, migration et déplacement forcé. Une quinzaine de textes percutants avec des analyses et des récits essentiels pour comprendre les enjeux les plus actuels. On peut commander le numéro sur caminando.ca au coût de 10$. Mm-hmm. Je poursuis avec une ressource en ligne produite par la Ligue des droits et libertés. Ce sont deux fiches d'information qui visent à déconstruire les mythes qu'on lit ou qu'on entend régulièrement sur les liens allégués entre l'immigration et la crise du logement et entre l'immigration et l'accès aux services publics, mythe solidement entretenu depuis des années par plusieurs médias et partis politiques. Ce sont donc deux fiches imprimables en format 8,5-11, parfaites pour afficher sur un mur. On dirait que je fais de la pub, des belles fiches couleurs au graphisme attrayant. Merci Mathieu.
Je vais commander de ce chef.
Quel excellent acteur. Donc, contenu très clair, graphisme attrayant. Évidemment, si vous voulez juste les consulter, pas besoin de les imprimer et c'est accessible gratuitement dans le site liguedesdroits.ca.
Mais elles sont belles, je les ai vues, sont très belles.
Sont très belles. De là, l'enthousiasme débordant de Mathieu. Toujours dans les documents téléchargés en ligne, l'Observatoire pour la justice migrante nous présente Construire la figure de l'immigrant dangereux pour banaliser sa criminalisation. On y trouve une vidéo de mise en contexte très intéressant et surtout un document PDF d'une quarantaine de pages signé à quatre mains. Mirixel Abelan Almenara, Aurélie Langto, Louis-Philippe Janard et Jennifer Lopez, qui n'est pas la chanteuse.
Oui, oui, j'espère.
Des textes dans lesquels, en fait, c'est peut-être elle, des textes dans lesquels on parle beaucoup de détention des personnes migrantes et immigrantes, mais dans un contexte assez large, on remonte pas mal en amont sur les sources de cette surreprésentation carcérale. Et inversement, on va aussi assez loin dans les conséquences individuelles et collectives. Tout ça nous est aussi offert gratuitement dans le site observatoirepourlajusticemigrante.org. Sinon, lors de notre dernier épisode, on vous parlait du projet de loi fédéral C2 qui, ultimement, vise entre autres à normaliser les déportations de masse et compliquer considérablement les démarches pour obtenir un statut légal au Canada. Il y a maintenant une pétition en ligne mise sur pied par le Migrants Rights Network. On peut donc la signer sur migrantrights.ca où on vous invite à prendre d'autres actions comme endosser la démarche si vous représentez une organisation ou encore entrer en contact avec votre député fédéral pour lui mettre de la pression dessus. Bon, il me reste quoi, 2 minutes pour Cinéma sous les étoiles?
Prends ton temps, Simon.
Parfait. Donc, j'ai plusieurs suggestions. Ça commençait hier et ça se poursuit jusqu'au 30 août. On aura l'occasion de s'en reparler, alors je vais me limiter pour l'instant aux premières semaines du festival et aux longs métrages seulement, parce qu'il y a aussi des soirées de courts métrages qui ont l'air très intéressantes. C'est loin d'être exhaustif comme liste de suggestions et on reste dans nos thématiques habituelles ici aux Apatrides, mais il y a une infinité d'autres sujets qui sont abordés. L'environnement, les enjeux queer, entre autres. Alors, je vous fais 6 suggestions dans l'ordre chronologique de présentation des films. La première, un film dont le titre est Ernest Cole Photograph, un film qui a eu une grosse carrière dans les festivals Toronto, Cannes, etc. Ernest Cole était un photographe sud-africain dont on dit qu'il a été le premier à montrer au reste du monde les horreurs de l'apartheid. Raoul Peck, le réalisateur qui est d'origine haïtienne, il nous raconte les tourments d'Ernest Cole, son exil à New York, son travail photographique et évidemment l'impact qu'il a eu. Un destin vraiment hors du commun à voir le mardi 1er juillet au Parc du Pélican dans le quartier Rosemont. Deuxième suggestion, Diaries from Lebanon de la réalisatrice libanaise Myriam El Hadj, un film sur l'actualité très récente de son pays de 2020 à maintenant. sur les différentes crises, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, inflationnistes, les bombardements israéliens, présentés ici pourtant d'un point de vue très intime et personnel autour de trois personnes qu'elle va suivre au quotidien. Un vétéran amputé de la guerre civile, une journaliste féministe évincée de son siège parlementaire et une jeune artiste militante. Diaries from Lebanon est présenté le lundi 7 juillet à la place Shamrock à côté du marché Jean Talon.
À Montréal.
À Montréal, métro Jean Talon. Donc, voilà. Troisième film que je vous recommande, Union, documentaire co-réalisé par Brett Story et Stephen Meng. Je ne sais pas si je prononce bien, qui porte comme son titre l'indique sur la syndicalisation, celle d'un centre de distribution de Amazon à Staten Island, à New York. Donc, les protagonistes qui mènent cette lutte, ils sont suivis au quotidien par les documentaristes qui ont livré un film, semble-t-il, excellent, qui lui aussi a connu une carrière de festival assez impressionnante, Sundance, les Hot Dogs à Toronto, les RIDM à Montréal. À voir donc le film Union au Parc des Faubourgs, Ontario de Lormier, le lundi 7 juillet. Malheureusement, le même soir que Diaries for Lebanon.
Mais
c'est un festival très...
un gros lundi.
Ben, ça va faire changement. le lendemain, on pourra voir le film de la réalisatrice et sociologue Abenakis Kim Obomsawin, Ninan Wasat, Nous ou les enfants, qui, comme les précédents films, suit des individus dans leur quotidien sur une longue période, sur 6 ans dans ce cas. Madame Obomsawin est allée à la rencontre de groupes de jeunes de 3 nations différentes, les Atikameks, les Iyukri et les Innus. Aucun adulte n'intervient dans ce documentaire qualifié de puissant. La parole est 100% donnée aux jeunes qui nous parlent de leurs angoisses, leurs difficultés, mais aussi de leur réalisation, de leur victoire et de leurs rêves. Donc, si vous voulez un regard frais sur la jeunesse autochtone, vous devez aller voir Ninan Ouassat, Nous, les enfants, le mardi 8 juillet au parc Médéric Martin, à côté du métro Frontenac. Cinquième suggestion, Sudan Remember Us, qui raconte le soulèvement populaire soudanais de 2019 contre le dictateur Omar el-Bashir, qui était au pouvoir depuis 30 ans. C'est réalisé par In Medeb, qui est une documentariste française d'origine maghrébine qui concentre son regard toujours très politique sur le monde africain et arabe, cette fois-ci sur un épisode central de l'histoire récente du Soudan avec le film Sudan Remember Us au Parc Laurier dans le plateau le mercredi 9 juillet. Sixième et dernière proposition à mettre absolument à votre agenda, le documentaire oscarisé No Other Land, réalisé par un collectif de cinéastes palestiniens et israéliens sur la lutte contre l'apartheid et l'occupation en Cisjordanie. Pas besoin de vous résumer davantage, on a beaucoup entendu parler de ce film coup de poing. Vous pourrez le voir le 10 juillet au Théâtre de Verdure au Parc La Fontaine. À la prochaine émission, dans 2 semaines, on aura sûrement d'autres suggestions dans le cadre de Cinéma sous les étoiles pour les dernières semaines de ce fantastique festival complètement gratuit. Et je pense que c'est une grande chance qu'on a d'avoir ce festival à Montréal. Allez voir la programmation complète dans cinemasouslesétoiles.org. C'est déjà presque terminé pour cette édition du 26 juin 2025 des Apatrides Anonymes, produite par Mathieu et Simon en l'absence de Marie-Ève qui fera son grand retour lors du prochain épisode qui va être le jeudi 10 juillet 2025. Si tout se déroule comme prévu, on va recevoir en entrevue Nadir André, dont on a parlé tantôt, qui est avocat spécialisé en droit autochtone avec qui on va essayer de démêler des questions sur les traités numérotés et sur l'identité métisse. Manquez pas ça.
Ouais, ouais.
Des questions qui ne nous sont pas si familières que ça.
Non, qui sont complexes aussi. Puis dans ses chroniques à Espace autochtone, il en parle déjà un peu pour justement vulgariser tout ça.
Donc, on est en direct aux 2 semaines, les jeudis à 18h30 dans les studios de Choc à l'UQAM. On est aussi diffusé sur les ondes FM de Radio Victoria sur l'île de Vancouver, une des plus grandes importantes stations francophones de l'Ouest. Un grand salut aux gens qui nous écoutent là-bas. Avant de vous quitter avec une dernière pièce musicale, nos coordonnées, on a encore une page FB où on publie articles internationaux et événements locaux.
Exact.
Nos balados sont évidemment en rattrapage dans choc.ca où on vous invite fortement à explorer l'ensemble de la programmation et les palmarès musicaux. On vous invite aussi à visiter notre site apatridesanonymes.info ou encore à nous envoyer un courriel à apatridesanonymes@resist.ca. Mathieu, merci beaucoup pour ta présence en alternance à la console et dans le studio principal.
Merci à toi, Simon, pour tes chroniques et la console et l'animation.
et aussi pour nos choix musicaux.
Mutuels.
Ben oui, ben là, on va terminer cette heure d'actualité en jazz avec la pièce module 14 de Nick Bartsch. Je sais pas si tu nous as préparé un
ben
petit...
Oui, ben oui, c'est bon. Nick Bartsch, son projet s'appelle Ronin, R-O-N-I-N, de l'album Spin, sorti en 2024, la pièce Module 14 ou Module 14, comme tu disais. Bartsch est un compositeur, pianiste, producteur de musique et chef d'orchestre de Zurich. Son quatuor, donc Ronin, est composé de lui-même au piano et au clavier, de Shah à la clarinette basse et au saxophone alto, Jeremiah Keller à la basse et Kaspar Ratz aux percussions. On parle de jazz, prog, contemporain. Vraiment intéressant. Je les ai vus au Jésus à Montréal l'hiver dernier pendant Montréal
en Lumière. Tu vois tous les spectacles.
Ou presque. Et c'est vraiment très, très bon à voir en spectacle. Donc, c'est une pièce d'à peu près 11 minutes. Donc, c'est la musique instrumentale. On s'amuse, on plane et on apprécie les très, très bons musiciens qu'on va entendre. Donc, Nick Bartsch, Ronin, la pièce Module 14.
Ben merci Mathieu, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On sait que l'actualité est dure et stressante parfois, alors bravo de faire l'effort de rester au courant. Portez-vous bien et on se dit à dans 2 semaines.
Bonne soirée!